savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, il est midi et des poussières dans le sud de la Lozère, l'heure de cette émission consacrée aux actualités et paroles locales. Alors la saison estivale est en train de doucement démarrer par ici et les différents services de gestion et d'administration du territoire s'y préparent. On vous avait transmis mardi les annonces du préfet de la Lozère, Gilles Quenet-Hervé, qui présentait les priorités à venir pour cet été. Et la première était la prévention des incendies. La forêt, elle occupe 40% du territoire de la Lozère et avec les canicules et les sécheresses qui se multiplient, ben la forêt devient de plus en plus sensible. La majorité du département est d'ailleurs classée en intensité potentielle de feu forte. Et cette année déjà, en avril, il y a eu 3 départs de feu en Lozère. Le dernier, c'était le 9 avril sur la commune du Born, où le feu avait quand même parcouru 13 hectares avant d'être maîtrisé. Alors la préfecture de Lozère, elle va déployer son dispositif de surveillance renforcé dès le 29 juin. Et hier, l'ensemble des services impliqués étaient réunis pour un point presse à Champerbout sur la commune Gorge du Tarn-Causse. Il y avait les pompiers du service départemental d'incendie et de secours de la Lozère, bien sûr, mais aussi la gendarmerie, la police, le parc national des Cévennes, la direction départementale du territoire, l'Office français de la biodiversité et l'ONF, représentés par leur unité DFCI, Défense des forêts contre les incendies. Et j'ai rencontré Lisa Bercon, qui est la coordinatrice DFCI pour la Lozère. Et ses équipes sont aux premières lignes quand il s'agit de prévenir, de repérer et d'agir en cas de départ de feu.
On est sur effectivement le dispositif de prévention, donc c'est nous qui patrouillons pour prévenir justement tout départ de feu à travers la sensibilisation, de l'information auprès du public et puis aussi de la surveillance, de la détection, de la dissuasion aussi, hein, le fait de voir les véhicules jeunes et les patrouilles commencer à tourner sur un territoire, les gens commencent à se dire bah oui on rentre en saison, donc voilà il y a aussi cet aspect-là. Et puis voilà on est là après aussi pour la suite, on peut faire de la première intervention avec les véhicules qu'on a présentés tout à l'heure. Mais aussi, on fait de l'appui aux commandants des opérations de secours. Donc on est là, effectivement, au début sur la prévention, mais on essaye d'accompagner aussi les services dès que possible sur toute la partie lutte et appui aux commandants des opérations de secours, même si on n'est pas un service de lutte.
Et votre connaissance fine de la forêt, du territoire forestier, est-ce que ça fait de vos équipes un vrai atout, en fait, pour identifier où est-ce qu'il y a des risques d'incendie ?
Alors oui, en tout cas, on participe, on est l'un des services qui apporte de l'information sur la végétation, l'état de sécheresse de la végétation. Alors à travers le réseau hydrique qu'on fait toutes les semaines, pendant la saison estivale, c'est un dispositif qui date des années 1973 de mémoire, qui a été mis en place sur toute la zone historique feu de forêt, donc en gros l'arc méditerranéen, dont la Lozère fait partie. On a 3 sites sur le département, un site qui est sur les Cévennes à Saint-Étienne-Vallée-Française, un site qui est sur Saint-André, Capsaise, là du côté de Villefort, et un site qui est sur Saint-Étienne du Val-d'Aunay, donc plus près de Mende. Et donc sur ces 3 sites, on prélève toutes les semaines, le mardi, 2 espèces végétales, donc on prélève la pousse de l'année et on mesure leur teneur en eau, donc soit avec ce qu'on appelle des balances des cicatrices qui permettent de dessécher le végétal, soit avec des tuves qu'on met, des fours qu'on met en place là, pendant 24 heures. Et ça nous donne la teneur en eau réelle du végétal, et ça, c'est des données qu'on va fournir à Météo France. Et Météo France va les utiliser pour l'intégrer à ses calculs de danger feu de forêt et va pouvoir adapter. Ça ajoute une information complémentaire finalement à tout le panel d'indices qu'a Météo France pour le danger feu de forêt. La forêt, c'est aussi notre avenir, donc il faut faire très attention à la préserver, notamment du risque incendie feu de forêt. Donc on est au cœur du sujet là.
L'objectif, c'est bien sûr de tout faire pour empêcher un départ de feu, mais si le feu il y a, eh bien, l'enjeu sera ensuite de faire la lumière sur les causes de l'incendie, pour les comprendre et mieux les prévenir, mais aussi pour identifier d'éventuels responsables quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et que parmi ces feux d'origine humaine, eh bien, 30% sont des actes de malveillance. Alors une cellule consacrée à la recherche des causes et circonstances des incendies, la cellule RCCI, elle est en place et elle regroupe divers services depuis donc la DFCI ou les pompiers qui vont constater le départ de feu, jusqu'à la police judiciaire qui peut lancer des poursuites. Et sur le terrain, pour identifier les causes et circonstances d'un incendie, eh bien la scène ressemblerait presque à celle d'une scène de police criminelle, comme l'a expliqué Kerouac Geoffrey Kerley, technicien forestier de la DFCI à l'ONF.
Une scène de police criminelle, effectivement. Donc nous on va venir chercher ce qu'on appelle des macro traces, donc c'est des gros traces de l'axe de propagation de l'incendie. On va commencer à y redescendre au fur et à mesure afin de se diriger vers le départ de feu. Effectivement, une fois qu'on a déterminé un peu une zone grossière d'une dizaine de mètres carrés, on va venir chercher des micro traces au sol et une fois de plus placer les drapeaux et pareil effectivement trouver une zone de départ qu'on essaie de faire au plus petit afin de trouver peut-être des indices ou carrément le départ de feu ou quelque chose qui aurait déclenché le feu. On peut voir sur certaines choses, par exemple sur les herbes qui vont tomber d'une certaine manière qui permettent de nous faire remonter vers le départ de feu. On peut avoir aussi des biseaux qu'on va retrouver sur des buissons ou ce genre de choses qui ont été brûlées, qui permettent une fois de plus, c'est toujours la même chose de revenir sur cette zone de départ de feu. Le but c'est d'éliminer des causes qui sont pas possibles, donc si on n'a pas eu d'orage on peut éliminer la foudre, si on voit pas d'ordures, de dépôts sauvages, on va éliminer ce genre de causes. Donc c'est pas tellement une identification exacte de la cause, c'est surtout de l'élimination des causes afin de déterminer les causes les plus probables et à ce moment-là, si on découvre des indices, pouvoir flécher sur la bonne cause. Les primo-intervenants, les premières personnes sur les lieux qui vont attaquer l'incendie, que ce soit les véhicules de PSI de l'ONF ou les pompiers, c'est d'éviter de taper avec la lance sur les zones de départ de feu afin qu'on puisse effectivement y remonter. Et effectivement, on arrive pas mal de fois à remonter sur la zone de départ et des fois de trouver effectivement la cause.
Voilà, une première enquête RCCI a été menée la semaine dernière dans l'est du département pour laquelle la gendarmerie a justement sollicité l'expertise de l'ONF et l'enquête est en cours. Voilà, les incendies, c'est pas que la responsabilité de toutes ces instances et de tous ces services, c'est aussi la responsabilité individuelle de chacun. Donc voilà, il faut qu'on fasse tous attention pour éviter à tout prix des départs de feu en Lozère cet été.
Sleeping as we fly.
Écoutez à l'instant Walking in the Air de Joe York et Big Chip. Ces deux musiciens britanniques ont fait une reprise version rocksteady de Walking in the Air, une chanson composée par Howard Blake en 1982 pour le dessin animé The Snowman, un classique de l'hiver en Angleterre. Alors, c'est pas trop de saison, on parlait d'incendie, mais c'est un super morceau. Et d'ailleurs, je vous ferai écouter la version originale tout à l'heure pour comparer.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Barthas. Et tout de suite, j'accueille Nathaël dans ce studio. Salut Nathaël.
Bonjour Raphaël.
Alors Nathaël, toi tu es stagiaire en ce moment à la radio et hier tu es allé faire ton premier reportage, tu es allé rencontrer les étudiants québécois du collectif 14 en plein cabaret de création cinématographique.
Oui effectivement, alors du 5 au 15 juin, Florac renoue à nouveau avec le Québec en accueillant le collectif 14. Donc c'est des étudiants en cinéma du Cégep Limoulou, du campus de la ville de Québec, pour un cabaret de création. Alors ils sont inspirés par le mouvement Kino et les étudiants, ont à peine une semaine pour réaliser leur film de A à Z, ce qui est très peu quand même, avec comme seule contrainte le temps et le lieu. Et les films devront être finis pour la soirée de projection ce vendredi à la Jeunette Verte à Florac. Ils sont accompagnés par leurs enseignants, Richard Lacombe et Julie Lambert, qui sont tous deux cinéastes. Et je suis donc allé rencontrer Richard à l'Institut Agro de Florac, où ils ont installé leur base principale, on peut dire.
C'est le deuxième cabaret qu'on organise, ma collègue Julie Lambert et moi. L'année dernière, on est venu ici, à Florac, avec un groupe de 14 étudiantes. Et cette année, on est ici avec 14 étudiants et étudiantes. Il y a 6 garçons, 8 filles.
Qu'est-ce que ça change par rapport à l'année dernière, qu'il y ait des garçons et des filles cette année?
En fait, c'est le hasard qui fait que l'année dernière, c'était 14 filles. Il n'y avait pas de critères spécifiques à ce que ce soit des filles. Cette année, encore une fois, c'était ouvert. Ça donne 6 gars, 8 filles. La seule grosse différence, bien évidemment, il y a une dynamique différente, mais il y a aussi que les participantes l'année dernière ont plus eu une approche documentaire et cette année, on travaille beaucoup la fiction.
Et qu'est-ce que cet événement apporterait aux personnes qui vont y participer?
Alors, c'est hyper formateur comme projet parce que, bon, ça demande beaucoup, beaucoup de débrouillardise. Tout d'abord, il faut trouver des idées, donc des idées de scénario, des idées de documentaire. Après ça, il faut réaliser le film. Il faut faire des démarches, trouver des lieux de tournage, trouver des comédiens, trouver des personnages, trouver des accessoires, tout ça dans un temps record, alors une journée ou maximum deux. Après ça, il faut aller tourner et faire le montage pour que tout soit prêt pour vendredi, la présentation à 20h à la Jeunette Verte.
Alors j'ai ensuite rencontré Jasmine et Lucas qui m'ont expliqué ce qu'ils faisaient là.
Bonjour, je m'appelle Jasmine Desrochers, j'ai 18 ans et je fais partie du collectif 14 pour aller à Florac faire du cinéma.
Moi, c'est Lucas, j'ai 19 ans, je suis aussi un membre du collectif 14 pour faire des films à Florac.
Pourquoi ça s'appelle le collectif 14?
Le collectif 14, c'est un nom qui a été choisi parce qu'on est 14 membres, 14 élèves qui s'en vont faire du cinéma.
Puis je pense que c'est une petite affaire quand même intéressante, c'est que c'est un nom qu'on a hérité à la base aussi.
Ouais.
Avant nous, il y avait un autre groupe qui a fait le même voyage, qui s'appelle Collectif 14. On a décidé de garder le même nom.
Est-ce qu'il y avait un thème à respecter aussi ou...
Non, c'est complètement libre. C'est pour ça qu'on est plusieurs projets. On doit être à peu près 10 films en même temps à se faire tourner. Puis c'est tous des films qui sont super différents. Comme Lucas, lui, il fait un film d'horreur. Puis il y a d'autres personnes, c'est de la comédie.
On a des documentaires, on a des vidéoclips, on a vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment chaque élève sort sa propre créativité, sa propre personnalité.
Exactement. Il n'y a pas vraiment de contraintes.
Là, non, le but, c'est qu'on soit collectif les uns envers les autres. On a tous nos propres projets, mais on va tous se mettre la main à la pâte pour aider les autres.
On peut pas faire un film seul, c'est pratiquement impossible. Donc, il y a des personnes qui vont s'occuper du son, de la caméra, mais surtout sur un plateau, on a besoin d'être plusieurs aussi pour s'entraider. Donc, même si on a tous des idées qui viennent de nous, on va sur les plateaux, sur les tournages des autres élèves pour s'aider parce que c'est ça le collectif 14.
Est-ce que vous avez relevé des contraintes pendant le tournage?
Alors moi, j'ai fait un tournage sur trois, donc j'ai pas complètement terminé. Mais oui, il y a des contraintes, justement. Ici, on savait pas, moi puis mon équipe de tournage, que c'était les magasins se fermaient lundi pratiquement. Donc on avait besoin d'une balle de laine rouge pour notre film. Et ça a été là, super compliqué à trouver. On voyait, il y avait des magasins de laine avec des boutiques avec une balle de laine juste où la fenêtre, on la voyait, mais on pouvait pas rentrer. Donc on a dû être créative et aller demander à tous les habitants, avez-vous une laine rouge chez vous? On est allé même cogner à un hôtel. Puis, je crois que c'était Jean-Claude, le nom de la personne qui gérait l'hôtel, a appelé sa femme et sa mère. Et finalement, sa mère avait une balle de laine rouge. Et il a marché jusqu'à chez sa mère pour venir nous rapporter une laine rouge pour notre film. Donc, c'est des belles contraintes comme ça qui ont fait que c'était un beau moment, mais stressant.
Pour moi, je pense que le plus gros problème, ça a été le temps auquel je tournais. Parce que pour être un film d'horreur, ça devait être plutôt tard le soir. Donc déjà, j'avais mes acteurs et mes amis qui étaient déjà fatigués d'avoir déjà fait peut-être deux autres tournages dans la journée. Fait que ils étaient déjà pas mal à bout. Et le fait surtout qu'il faisait très noir, surtout dans la ville, il fait noir assez rapidement. Et le noir, filmer dans le noir, c'est peut-être pas la meilleure chose, la chose la plus facile à faire non plus.
Pourquoi avoir choisi la France et spécifiquement la Lozère pour tourner?
La Lozère, vous parlez de Florac?
Oui, Florac.
Parfait.
C'est village.
Ben, je crois, c'est un choix que nos professeurs ont fait, mais c'est un choix qui est certainement très réfléchi et intéressant parce que ici, premièrement, tout le monde a tellement une fibre artistique intéressante. L'endroit il est magnifique, puis il y a une entraide exceptionnelle entre les habitants. Tout le monde veut venir nous aider. Puis tout le monde a énormément de talent, donc ça fait des petits miracles.
Surtout en France, il y a une grande culture du cinéma. Genre, c'est beaucoup évolué ici, fait que c'est sûr que c'est intéressant de venir. Moi, personnellement, j'avais pas vraiment d'idée de où est-ce que j'allais tourner. Là, j'avais juste l'idée que je voulais faire un film d'horreur. C'est vraiment, on a eu droit à une visite à un moment donné, vers le début du voyage. Et c'est vraiment là que j'ai pu voir tous les endroits que j'allais filmer. On est allé vraiment partout dans la ville, fait que ça a été vraiment super de pouvoir choisir quel endroit est un peu plus creepy, un peu plus malaisante. Fait que, c'est plus comme ça que j'ai trouvé, moi, personnellement, le lieu de tournage.
Et justement, Nathaël, toi, tu es ensuite allé rencontrer d'autres étudiants qui étaient, eux, en plein tournage.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai aussi rencontré Zach et Fanny, qui tournaient leur film dans la boutique Mylène Micoton, rue du Pêcher à Florac. Et on sentait quand même un certain stress, une certaine urgence, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour tourner.
C'est quoi ton rôle là?
Je suis perchiste, puis un petit peu assistant réal, donc j'aide Fanny à poser les questions. On essaie de diriger un peu Mimi parce qu'elle a tellement d'histoires que c'est ça, il faut quand même recadrer le truc, sinon ça va faire un documentaire de plus de 10 minutes. Puis on est assez limité, on projette ce vendredi, donc là il est déjà mercredi 10h. J'y avais pas pensé comme ça, mais c'est dans moins de 72 heures, je pense. C'est dans genre 56 heures qu'on. On projette. Ouais, c'est vraiment plus près qu'on le pense. Puis moi, il me reste le montage de ma fiction, encore des plans à tourner. Le documentaire, on est juste en train de le filmer, donc aussi tout ça à monter. Donc je suis assez fébrile, disons. Je le réalisais pas avant de le dire, mais ouais, dans 56 heures, on projette des films qu'on n'a pas finis, en fait. Donc c'est quand même cool. Puis on a de la chance, les gens de Florac sont tellement... sont tellement cool, l'esprit de communauté est tellement présent. Il n'y a pas une fois dans un commerce où je suis rentré pour demander quelque chose à quelqu'un ou qu'on m'a refusé de le faire. Tout le temps, tout le temps les gens super accueillants, super souriants. Puis c'est comme ici, on se promenait lundi pour trouver des idées de tournage. Puis dès qu'on a croisé Mimi, ça a cliqué. Là, on savait qu'on faisait un documentaire là, sur elle.
Et donc c'est la réalisatrice?
Oui, ben, c'est ultimement c'est Fanny qui a eu l'idée de faire le doc. Sans elle, j'aurais peut-être pas voulu le faire, là, mais genre, elle est vraiment bonne. Là. Elle pose les bonnes questions, puis elle a l'œil artistique aussi. Là. Ouais, c'est vraiment bien.
Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis une étudiante au Cégep Limoilou à Québec. Je fais partie du collectif 14.
C'est quoi ton rôle en tant que réalisatrice? Là?
Ouais, moi j'adore faire plein de choses. J'aime vraiment faire des vidéoclips. Justement, hier, j'ai fini un vidéoclip que j'espère que tu vas voir. Ça va se présenter vendredi dans la grande salle. Aujourd'hui, je suis en train de faire un documentaire avec Zach. C'est vraiment le fun parce que ça sort de ma zone de confort d'habitude. J'aime plus faire des fictions puis des montages. Puis aujourd'hui, je suis derrière la caméra d'habitude, je suis derrière l'ordinateur. Sinon, c'est ça, quand on a vu Mimi, qui est la personne sur qui on fait le documentaire, on a tout de suite accroché parce qu'elle est tellement colorée, puis c'est rare de voir des gens qu'on voit leur personnalité dans leur boutique. Donc, on n'avait pas le choix de venir faire un portrait sur elle. Donc, j'ai décidé de faire deux films à la place pour pouvoir capter les deux.
C'est quoi les différences que tu trouves entre la fiction et le documentaire?
Ben, je trouve que la fiction, c'est vraiment plus créatif, t'as plus libre cours à ton imagination. Mais le documentaire, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de l'autre personne. C'est à propos de capter la vision, puis capter la personnalité de l'autre. Tandis que la fiction, c'est plus capter ta vision, ta personnalité. Okay. Donc, il y en a un, c'est plus vers soi, l'autre, c'est plus vers l'autre.
La personne.
C'est ça, la personne. Okay.
Et Nathalie, tu as couvert tout le processus de fabrication d'un film, de la pré-production au tournage jusqu'au montage.
Et oui, et j'ai enfin retrouvé Lucas qui était en plein montage de son film d'horreur, ce qui est la dernière étape.
En ce moment, je suis en train de placer du son pour la scène avec mon actrice. Quand on a filmé, malheureusement, on n'avait comme pas de son, fait que je suis en train d'essayer d'en télécharger pour pouvoir le placer pour que ça soit plus réaliste.
Et qu'est-ce que tu dois faire concrètement là? Rajouter des sons, enlever des trucs?
Le but, c'est de rendre la scène la plus potable possible. Mm-hmm. Moi qui fais un film d'horreur, ce serait peut-être d'un peu plus exagérer les sons, peut-être rajouter des sons un peu plus violents sur les scènes un peu plus... faire des gestes brusques ou une apparition étrange. S'assurer que toutes les images, que la luminosité de chaque image genre, reste concorde, genre reste tout à peu la même luminosité.
Que ça soit cohérent.
Ouais, parce que sinon, ça va faire décrocher le monde. Là. Le but, c'est pas de faire décrocher, de vraiment mettre la personne dans l'atmosphère de ton film, de les amener à le bon endroit, s'assurer que l'ordre est bon, que le son n'est pas trop, que la lumière est correcte. Beaucoup de bidonnage pour s'assurer qu'on garde la bonne expérience.
Eh ben merci beaucoup, Nathalie, pour ce reportage immersif avec le Collectif 14. On a hâte de découvrir le résultat de tout ce travail. Tu vas aller voir les résultats toi aussi vendredi?
Oui, bien sûr, évidemment.
Alors voilà, on vous donne rendez-vous vendredi 12 juin à 20h à la Jeunette Verte pour voir tout ça et pour voilà, se rendre compte comment est-ce qu'on peut faire un film en si peu de temps.
Midi et des poussières
sur Radio Bartas.
Et voilà, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, je vous propose d'écouter maintenant la version originale du titre qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission, Walking in the Air. C'était la version reprise version rocksteady qu'on a entendue de Joe York et Big Chip. Et voici maintenant celle composée par Howard Blake en 1982 pour le dessin animé The Snowman. Je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre dans un temps assez rapproché deux versions d'un même morceau. Moi, j'aime bien cet exercice.
We're floating in the moonlit sky. drifting over icy mountains floating by.
Et voilà pour cette version originale de Walking in the Air. T'as préféré laquelle, Nathalie, toi, entre les deux? La version originale ou la version rocksteady?
Ah, c'est dur de choisir. Dans l'original, il y a plein d'instruments intéressants, donc je pourrais pas trop choisir, honnêtement.
En tout cas, on pourrait penser qu'il y a une version un peu plus hivernale, ce serait celle-ci, l'originale, et puis la version un peu plus été en rocksteady.
Exact.
Voilà, et ben c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve mardi pour un prochain épisode. Je serai en compagnie de David et Véronique qui animent l'émission L'Oresson del Pesquer sur Radio Bartas et qui préparent activement la grande fête Total Festum qui aura lieu au pont de Montvert le 20 juin prochain. Une fête pour célébrer les traditions et légendes locales, notamment la légende de la vieille morte, mais aussi pour parler de la langue occitane, du collectage de chants sur le Mont Lozère. Plein de belles choses en perspective. Rendez-vous donc mardi à midi et des poussières, précisément. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.